Et restez à table, on envoie la suite. À 13h, je recevrai l'artiste de cirque Mathurin Bolz. Et tout de suite, Marie Sorbier est là pour le Point Culture. Bonjour.
Bonjour Marie et bonjour à tous. La 10e édition des Nuits de la Lecture commence aujourd'hui et ce jusqu'à dimanche. Alors c'est organisé par le Centre National du Livre sur proposition du ministère de la Culture. Pour célébrer le plaisir de lire, elles ont pour thème cette année villes et campagnes et se déroulent partout en France, mais pas que, car pour cette 10e édition, une trentaine de pays participent aussi à l'événement. Et c'est l'occasion pour nous de faire un point sur les habitudes de lecture des Français. Claude Poissonneau, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes enseignant-chercheur en sociologie à l'Université de Lorraine et vous travaillez sur la lecture et sur ses représentations chez les Français. Alors, on entend souvent « les Français lisent moins ». Est-ce que cette impression est basée sur des chiffres réels ?
Alors bon, on a effectivement des éléments qui vont légèrement dans ce sens. Hein. Entre 2019 et 2025, on a eu une baisse de 2,1% des volumes de vente. Hein. Voilà, donc on a une légère érosion, le fait est. On avait eu une hausse très importante juste après Covid, mais là, depuis, ça a bien baissé. Et effectivement, on a une érosion indéniable de la lecture, mais qui n'est pas non plus une chute vertigineuse. Hein. C'est une érosion.
Est-ce qu'on peut associer vente et lecture ? Est-ce que tous les livres vendus sont lus ?
Alors non, évidemment, hein, une partie des livres sont offerts dans le cadre d'une vision un peu de prosélyte de la lecture. Donc c'est pour ça qu'il y a un bel instrument du ministère de la Culture sur les prêts en bibliothèque. Et je pense qu'il faut aussi s'intéresser à la lecture à travers la question des prêts en bibliothèque, parce que on y découvre des choses très intéressantes. Par exemple, le succès considérable de l'œuvre de Dominique de Saint-Marle sur Max et Lily, et qui est assez étonnant, mais c'est très intéressant. Et donc, ça montre qu'effectivement, la lecture ne doit pas être réduite aux ventes. Hein. Je suis assez d'accord avec cette vision.
Alors, on peut dire, vous l'avez dit avec des chiffres, hein, que la lecture recule un peu, mais est-ce que surtout, elle ne se reconfigure-t-elle pas ? Je veux dire, est-ce qu'on ne lit pas autrement ? Ce qui fait qu'on n'a pas les mêmes données.
Oui, c'est-à-dire que c'est toujours le problème du thermomètre, c'est-à-dire qu'on a un outil de mesure de l'évolution des pratiques de lecture qui reste quand même très largement centré sur la mesure de la lecture de livres papier. Et on mesure depuis peu, et puis pas bien, et pas de façon exhaustive, et parce que c'est pas facile, la lecture sur écran. Or, la lecture sur écran, c'est considérable. Hein. Il faut imaginer, je sais pas, quand on prend l'enquête de Passe Culture, ils ont fait une enquête sur les jeunes, 54% des utilisateurs déclarent lire des articles en ligne ou des blogs. 33% des mangas en ligne ou des webtoons. Donc, on a vraiment une pratique de lecture qui se diversifie sur les supports. Et la difficulté, c'est ça, c'est qu'on ne mesure pas toujours cette pratique qui se déploie sous des supports différents.
Alors, puisque vous évoquez les jeunes, c'est intéressant parce que ce que vous avez écrit dans un article récent, c'est que en fait, la lecture ne baisse pas chez les jeunes, mais plutôt chez les gens autour de 30 ans.
Oui, à partir de 35 ans, j'ai relevé qu'entre 2015 et 2025, il y avait une érosion plutôt chez les plus de 35 ans que chez les plus jeunes, qui sont pourtant très largement incriminés. Voilà. Un chiffre, c'était les 50-64 ans ont perdu un quart de lecteurs intensifs hein, entre 2015 et 2025. Et ce qui est pas du tout le cas. Les jeunes, ils ont pas baissé dans leur pratique de lecture. Ça a plutôt légèrement augmenté, même si vraiment on regarde dans le détail. Mais bon, donc il faut... Enfin, je pense qu'effectivement, il faut être prudent et que... On peut penser qu'il y a quelque chose de l'ordre d'une angoisse des adultes plutôt qu'une baisse de la lecture des jeunes. Enfin, c'est-à-dire que les plus anciens, enfin, ou pas, ils sont pas très anciens d'ailleurs, mais enfin, les seniors ou les un peu avant, les parents des jeunes sont plus touchés en fait par la baisse de la lecture. Donc on a un phénomène global et les jeunes, portent des pratiques de lecture tout à fait intensives. Hein. Un chiffre, c'est le Passe Culture, c'est 30 millions de livres réservés depuis sa création. Donc les jeunes, ils s'intéressent aux livres. C'est pas...
Il y a un autre chiffre intéressant, je trouve, dans une des dernières enquêtes du CNL, le Centre National du Livre, dit 53% des lecteurs de 15 à 24 ans déclarent faire autre chose en lisant. Est-ce que finalement cette lecture discontinue produit une définition différente de ce qu'on appelle la lecture?
Oui, alors c'est vrai que par rapport à nos représentations d'une pratique de lecture silencieuse, détachée du monde, et, voilà, c'est vrai qu'on a des pratiques de lecture qui sont plus ancrées dans un contexte et qui laissent de la place aussi au fait que les jeunes, mais pas seulement eux, se définissent de façon plurielle, à travers plusieurs facettes, et que ils peuvent faire se succéder ou cohabiter des facettes différentes. Et pour moi, ce chiffre-là, qui effectivement est un chiffre assez étonnant, ne doit pas être perçu comme le signe d'une pratique de lecture qui est maltraitée, mais le signe de lecteurs qui se pensent à travers des pratiques différentes. Et la combinaison de la lecture et de la musique, par exemple, est sans doute une... Voilà, mais c'est deux choses différentes que les lecteurs peuvent articuler, et pas seulement les jeunes, d'ailleurs, à mon sens, ça ne leur est pas spécifique.
Peut-être une dernière question concernant les nuits de la lecture qui commencent aujourd'hui et qui se déroulent jusqu'au 25 janvier partout en France et même cette année à l'international pour cette 10e édition. Est-ce qu'un événement comme celui-ci, c'est quelque chose d'utile pour la lecture ou est-ce qu'on est quand même dans une vitrine de communication?
Disons que y a les deux. Y a un côté vitrine et puis c'est-à-dire que dans le même temps où on fait ça, le pass culture a diminué de moitié, alors que du point de vue de la promotion de la lecture et du point de vue de l'affirmation de l'autonomie des lecteurs par un choix qu'ils pouvaient faire eux-mêmes, c'était un outil formidable. Donc c'est sûr que la nuit de la lecture, c'est intéressant, mais je pense aussi que ça participe d'un discours de promotion de la lecture qui peut nuire à l'appropriation personnelle de la lecture. C'est-à-dire que si tout le monde se penche sur le berceau de la lecture, pourquoi les jeunes se mettraient-ils à lire? En quoi pourrait-il faire de la lecture une pratique qui ait du sens à titre personnel? Voilà la question. Et pour moi, il est important peut-être de se poser cette question et de laisser les jeunes s'approprier à la fois à titre individuel mais collectif aussi la lecture. Et c'est peut-être le meilleur moyen pour qu'ils s'approprient la lecture, plutôt qu'on préempte le sens de leur pratique ou de leur absence de pratique. Je pense que le discours de la lecture sur les jeunes est aussi un discours intergénérationnel qui peine à faire de la place à la reformulation de la culture par les jeunes. Voilà. Et je pense que de ce point de vue-là, une nuit de la lecture, c'est une cérémonie. C'est bien de rendre hommage à la lecture, mais je ne suis pas sûr que ça ait un grand effet, et surtout sur les non-lecteurs, c'est ça.
Bien, merci beaucoup Claude Poissonneau.
Et dans le reste de l'actualité culturelle, Marie, le monde du livre se mobilise contre les baisses de subventions prévues dans le projet de loi de finances 2026.
Oui, une pétition vient d'être lancée pour protester contre le projet de loi qui prévoit une baisse de 25% des crédits dédiés aux livres et de 15% des aides versées au CNL. Déjà signée par plus de 5000 personnes, parmi lesquelles de nombreux écrivains, cette pétition alerte sur les risques majeurs que pourraient avoir ces coupes budgétaires, comme par exemple la disparition de nombreuses petites maisons d'édition indépendantes ou la fermeture de certaines librairies de proximité. Le texte termine en rappelant l'exception culturelle française en matière de littérature et la nécessité de sanctuariser le budget alloué aux livres.
Et pour finir, Marie, à Nantes viennent de débuter les BIS 2026.
Oui, l'édition 2026 des Biennales internationales du spectacle se déroule aujourd'hui et demain à la Cité des Congrès de Nantes dans un contexte de précarisation du monde de la culture. Créée en 2004, cette grande manifestation se déroule tous les deux ans et rassemble les professionnels du spectacle autour de conférences, de tables rondes, de rencontres portant sur le cirque, le théâtre, la musique ou encore la danse. Par ailleurs, cette année, avant même que ne débute l'événement, des professionnels ont publié un livre blanc de recommandations pour essayer de sécuriser le financement de la culture et éviter ainsi que ne continue le désengagement des collectivités territoriales.
Merci Marie. On
se
retrouve demain, oui, pour de nouvelles actualités culturelles. En attendant, il est 13h, vous écoutez France Culture.